Bonsoir, Père au cadre, au carré, là, pardon, Père au carré. Bonne année au carré, c'est Marnie de Saint-Maur. Juste pour revenir sur Camille Passauvert du 31 décembre, alors je l'ai écouté en podcast, c'est pour ça que je réagis un peu tard, mais elle a fait une petite erreur, c'est-à-dire que le wapiti dont elle parle, wapiti c'est le nom indien d'un animal qui est un cerf en fait, qui ressemble à nos cerfs européens, en plus grand quand même, et que les Américains appellent elk, E-L-K. D'où la confusion avec élan. Mais ça n'a rien à voir avec un élan. C'est pas du tout la même morphologie. C'est pas les mêmes bois. C'est même pas les mêmes habitudes alimentaires. Ça n'a rien à voir. Le wapiti est bien un cerf qui vit dans les forêts, qui se nourrit d'herbes, de bourgeons, voilà. Et pas du tout un animal semi-aquatique comme l'élan. Voilà, c'était Marnie qui ramène sa fraise. Très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. À bientôt, Camille. Au revoir.
Bonjour, M. Vidard, c'est Michel de Saint-Étienne. Je vais vous lire un petit poème indien. Ce n'est que lorsqu'il aura abattu le dernier arbre, et le dernier poisson, contaminé le dernier ruisseau, tué le dernier animal, que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible. Voilà, avis à tout le monde. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, Marie en Essonne. Merci pour vos belles émissions, aussi variées que la nature, qui nous invite et qui nous aide à faire le point sur les nombreux problèmes soulevés. Merci pour le bel accueil réservé aux auteurs de La Panthère des Neiges, qui nous enchante et nous invite à la réflexion. Merci pour vos belles émissions. Au revoir.
Oui, bonjour. Je suis une boomer de 70 ans, de la région lyonnaise. Et je dis bravo à Camille pour son engagement militant et résistant. Je l'encourage à poursuivre son combat pour secouer les vieux schnocks embourbés dans la glaise. Je suis depuis les années 1970 une militante convaincue. Bravo Camille et félicitations. Continuez, continuez. Ciao, ciao.
Bonjour, je m'appelle Yvan, je suis sur Angers. Donc, j'ai entendu votre superbe émission sur les papillons morphos du Brésil. Bon, alors évidemment, j'adore les papillons. Chez moi, je ne tombe pas parce que comme ça, j'ai les fleurs des champs qui permettent aux papillons de se nourrir. Et dès que les foins sont faits dans la région, bah, tous les papillons viennent chez moi, donc je suis très content. J'aimerais que la chasse aux papillons soit interdite sur la planète entière, sauf peut-être pour certains musées, mais très sporadiquement pour remplacer une espèce rare qui aurait été abîmée. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Au revoir.
Voilà, merci beaucoup pour vos messages. En tout cas, on espère vous entendre encore plus nombreux en 2022 sur le répondeur de la Terre au carré. Cet espace est le vôtre pour nous parler de tout ce qui concerne l'écologie autour de vous. Merci également pour Camille qui est au fond de son lit aujourd'hui après avoir passé ses vacances à nager dans les eaux revigorantes de la Bretagne. Je suis sûr qu'elle vous écoute. En tout cas, notez bien le numéro de téléphone du répondeur si vous ne le connaissez pas encore. 01 56 40 45 45. Numéro disponible à tout moment. Et vous le savez, on adore écouter chaque jour vos messages. C'est l'histoire d'une espèce humaine qui s'est développée dans le monde entier, qui a su s'adapter à toutes les conditions environnementales ou presque. Cette espèce, eh bien, c'est la nôtre, Homo sapiens, l'homme et la femme moderne. Lors de son émergence en Afrique, il y a au moins 300 000 ans, Homo sapiens n'était pas la seule espèce existant sur Terre. D'autres humains peuplaient notre planète, mais aujourd'hui, au sein de cette histoire complexe et chaotique de l'humanité, eh bien, nous sommes les seuls encore présents. C'est cette histoire donc, que nous allons revivre ensemble cet après-midi pour essayer de comprendre qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui fait la singularité d'Homo sapiens? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'archéologue Eva David et le paléontologue Valérie Zetoun. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Eva David, vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Préhistoire et Technologie. Vous êtes spécialiste des comportements techniques et symboliques sur matière dure animale. Et vous allez nous en dire un peu plus dans un instant. C'est pas la bonne présentation?
Non, je ris parce que je viens de changer de laboratoire.
Ah, mais il fallait nous le dire, cachotier. bien. Alors, quel est votre nouveau laboratoire?
Je suis au laboratoire en tête, anthropologie des techniques.
Bon, vous allez nous dire en tout cas de quoi vous vous occupez dans un instant. Valérie Zetoun, il n'y a pas eu de changement, vous, depuis les vacances?
Ça dépend, vous avez quelle adresse?
Alors, directeur de recherche au CNRS, membre du centre de recherche en paléontologie de Paris, ça c'est toujours bon, et spécialiste de la phylogénie d'Homo erectus et des cultures préhistoriques du sud-est asiatique. Vous avez publié avec le philosophe Telmo Pievani ce grand atlas Homo sapiens du journal Le Monde qui a été publié chez Glénat. Et on se retrouve évidemment dans un instant pour en parler d'Homo sapiens avec les messages et les questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, sur les réseaux sociaux et sur l'application France Inter avec les notes vocales. 14h30, ce sera donc une rediffusion de Camille Passauvert, Camille à laquelle on souhaite bon rétablissement. Et nous réécouterons donc le sujet qu'elle avait consacré il y a quelques mois au projet de champ de panneaux solaires géants en Gironde. Voilà pour le sommaire de cette émission première de 2022, réalisée par Valérie Ayestarai, préparée par Sophie Vaux avec Johanna Gabric à la technique. Et toute l'équipe de la Terre au Carré se joint à moi pour vous souhaiter la plus heureuse possible des années.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Il y a 400 000 ans, un nouvel homme voit le jour. Il est le premier représentant d'une famille extraordinaire, celle des Homo sapiens, la nôtre. Ses enfants traversent les mers et les montagnes, s'adaptent à tous les climats. Plusieurs fois, ils perdent tout, mais trouvent toujours le moyen de survivre et d'aller au-delà de leurs limites. Quelle est leur véritable histoire? Comment ont-ils peuplé la Terre? Comment ont-ils fait pour que nous soyons là, aujourd'hui? Voici l'histoire de la fabuleuse ascension de notre grande famille, celle des Homo sapiens.
Voilà, en ouverture, donc un extrait de ce film « L'Odyssée de l'espèce autour d'Homo sapiens » de Jacques Malaterre. C'était en 2005 avec la voix de Philippe Torreton. Et on en parle donc avec vous de notre espèce, précisément, Eva David et Valérie Zetoun. Alors, Valérie Zetoun, juste au début là, de la bande-annonce, on entendait 400 000 ans, alors que, on va le dire d'ailleurs au cours de cette émission, les fossiles les plus anciens découverts au Maroc datent de 300 000 ans. Mais cette date-là, on peut quand même la retenir comme étant exacte ou pas?
Alors, il n'y a pas de date exacte, hein, puisque les choses évoluent au cours des recherches, bien évidemment.
Au point, en tout cas, où on en parle aujourd'hui?
Alors, c'est même au point où on en parle aujourd'hui, parce que ça va dépendre de ce qu'on met dans l'étiquette, dans la boîte où on met l'étiquette Homo sapiens, en réalité. Dans la mesure où on est les seuls Homo sapiens qui restons en vivant sur la planète, on a tendance à phagocyter le terme. Moi, j'ai tendance à dire, à reprendre les anciens termes d'Homo sapiens sapiens en ce qui nous concerne. Et par exemple, d'utiliser Homo sapiens pour d'autres entités qu'on appelle différemment. Et d'ailleurs, on peut même se baser sur les données de la génétique actuelle, la paléogénétique, pour asseoir ce que je viens de vous dire. Hein. Par exemple, on sait que deux éléments d'une espèce peuvent se reproduire, avoir une descendance fertile. C'est la définition biologique. Et comme nous a appris la paléogénétique, on a en nous une partie néandertalien et inversement, et également avec les Denisoviens. Moi, je pense que la solution la plus simple serait de dire qu'on a des Homo sapiens sapiens, mais aussi des Homo sapiens néandertaliensis et des Homo sapiens Denisova, je ne sais quoi. Ouais. Et peut-être on peut extrapoler ce que je viens de vous dire à d'autres entités anciennes qu'on appelait parfois Homo erectus pour certaines ou avec d'autres noms. Donc voilà, il y a un vrai problème de définition. Et en fonction de ce qu'on aura compris ou entendu collectivement comme étant Homo sapiens, eh ben on va bouger le curseur à 600 000, puisque c'est à peu près l'âge auquel on voit une différence entre des entités qui seront des néandertaliens et d'autres des modernes. Donc, a fortiori, il y avait des sapiens à cette période-là. Et on peut remonter dans le temps comme ça.
Quand vous dites des entités, c'est des espèces, hein. On peut changer les mots ou pas?
Alors on a un terme qui est assez facile, qui permet de pas se compliquer avec ces termes-là, puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord. On parle souvent de taxon. Alors le terme vernaculaire, on va parler d'humanité différente. Je pense que c'est le terme qui permet qui est un peu passe partout.
Un peu tout le monde d'accord. Ouais.
Comme ça, on est d'accord que c'est des humanités. Encore que si on parle d'entités beaucoup plus anciennes, là se posera la question entre humanité et puis ce qui seront des australopithèques, des paranthropos. Donc, si on en reste on va dire, aux humains, ça peut passer.
Alors, c'est donc la question d'aujourd'hui pour savoir justement ce qui singularise, au fond, hein, cette espèce Homo sapiens sapiens. Alors, pour vous reprendre, et David, vous allez d'abord nous dire, vous, ce que vous étudiez, parce que je le disais tout à l'heure, les comportements techniques et symboliques sur matière dure animale. Alors, même si vous avez changé de labo...
Matière dure d'origine animale.
C'est toujours ce que vous étudiez aujourd'hui. Consiste en quoi exactement ?
Je m'interroge sur les technologies, en fait, quand les technologies apparaissent, et d'où elles viennent, d'où elles proviennent, et comment on peut les mettre en évidence. C'est assez difficile parce que quand vous avez deux choses qui se ressemblent, deux objets qui sont similaires, on a tendance à les mettre ensemble, à se dire, bon, voilà, c'est une production, ça date de, pourquoi pas, Homo erectus, si on utilise encore ce terme, moins 600 000 ans en Europe et en Afrique, mais sont-ils vraiment produits par le même groupe. Et ça, on peut maintenant l'interroger par la production elle-même, c'est-à-dire on regarde comment les enlèvements se sont détachés sur la matière et aussi s'il y a une anticipation, c'est-à-dire est-ce que le produit qu'on recherche in fine, qui a été recherché, la pointe ou le tranchant, le percuteur, pourquoi pas, des espèces d'éléments manuportés, est-ce qu'ils sont vraiment intentionnellement produits et dans leur production, est-ce qu'ils témoignent d'une pensée.
Ouais. Et à qui ils appartiennent donc aussi ? Ça permet d'essayer de définir à qui ces outils, par exemple, appartenaient, parce que c'est l'une des grandes complexités hein, pour justement la
Alors
préhistoire.
Alors on n'a encore trouvé aucun squelette avec un outil encore en main, donc on ne peut pas dire. Et même dans ce cas-là, on n'est pas sûr, même avec des produits qui sont disposés dans les tombes ou qui sont associés aux individus, comme on les recherche maintenant, surtout en Afrique de l'Est, j'ai l'impression, et c'est bien. Mais ça nous donne pas l'inventeur.
Ouais. On n'a jamais trouvé de squelette très ancien avec à côté des outils qui permettent vraiment, sans se tromper, de pouvoir dire, voilà, cet outil est associé à telle espèce, Valérie Zetoun.
En fait, c'est pire que ça. quand on a fait ça avec des collègues uniquement pour l'Europe, mais on a essayé de faire une synthèse, c'était en 2016, on a essayé de regarder où il y avait des gisements avec à la fois du matériel lithique, puisque c'est ce qui se conserve le mieux, et des ossements humains. Et je crois qu'il n'y avait que 3 cas en Europe où il y avait les objets et les humains dans la même couche. Ouais. Donc c'est juste une couche. Hein. Donc voilà, après évidemment, on peut se permettre des interprétations, mais après la limite c'est la surinterprétation, bien évidemment.
Alors vous vous intéressez, Valérie Zetoun, en particulier à un ancêtre d'Homo sapiens, c'est Homo erectus. Pourquoi est-ce que justement vous êtes particulièrement focalisé sur celui-là?
En fait, c'est plus un problème, je dirais, d'emprise mentale, parce que quand j'étais petit, j'étais fasciné par la découverte des premiers Homo erectus par Eugène Dubois, le médecin hollandais qui s'engageait comme ça pour aller dans un terrain tropical pour chercher et surtout pour trouver le premier fossile, hein, celui qu'on a donné la définition. Donc c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et après, j'ai essayé d'y travailler, j'ai fait une thèse sur ce sujet. Et justement, le sujet, c'était d'essayer de définir qu'est-ce que pouvait être Homo erectus, dans la mesure où ça a souvent été une entité, donc un taxon, qui était défini par ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire que ce n'était pas un Homo sapiens, ce n'était pas un Néandertalien, ce n'était plus un Australopithèque ou un Homo habilis, et donc c'était un Homo erectus. Donc c'est une humanité qui a duré pendant plus d'un million d'années. Hein.
Ouais. Donc il a été présent sur Terre pendant plus d'un million d'années, ce qui est très long, évidemment.
Enfin, c'est pas tant qu'il était présent, c'est que la définition était suffisamment floue pour dire que voilà, il avait occupé tout cet espace et tout ce temps. Donc voilà, la question, elle n'est pas résolue, bien évidemment.
Et erectus, alors ça dit quoi exactement ? Parce que même définir ce qu'est Homo erectus, hein, c'est très compliqué et très discuté au sein de la communauté scientifique.
Hein. Oui, tout à fait. Alors le terme initial, c'est Homo erectus, parce que Eugène Dubois, quand il trouve la petite calotte crânienne, à côté, il y a un fémur. Enfin, dans la légende, on dit un fémur, en réalité, il y en avait 7, et qu'il a associé à la partie crânienne. Et comme c'est un fémur qui était morphologiquement très proche de ce qui est le nôtre, donc, il en a déduit que c'était un humain qui déjà pouvait marcher debout.
Ouais. Donc voilà. Et est-ce que Homo sapiens et Homo erectus se sont fréquentés pendant longtemps ou pas ?
Alors là aussi, ça va dépendre de la définition qu'on en donne. Mais si on considère que, par exemple, les hommes de Flores sont une certaine catégorie d'Homo erectus, on va dire des Homo erectus de petite taille, d'après les données qu'on a, en tout cas chronologiques, hein, avec des hommes de Flores qui vont en durée de 90 à 60 000 ans pour les plus récents.
Ouais.
C'est une période à laquelle il existe déjà d'autres entités humaines, dont des Homo sapiens, quel que soit la sous-espèce ensuite dont on parle, mais pas forcément dans la même région. Donc là aussi, ça va dépendre de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Si ouais. ce niveau du globe, s'il y a potentiellement des possibilités de coexistence, mais pas de coexistence avérée.
Nous sommes donc des Homo sapiens sapiens, mais qui sommes-nous exactement ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec vous et avec les questions des auditeurs.
Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fanent les roses, des pensées qu'on croit sûres, et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma bouche, c'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mes paumes me dissoudre d'alcool et de paysages. Je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Du jour, les coucher sur la mer, à ravir la mort, nous moquer bien des limbes et des longs puits sans fond, car les dieux et l'Olympe n'auront jamais raison. Ils nous envient l'effroi de connaître le temps, de n'avoir qu'une seule foi pour nous rendre vivants. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Fleurs se fanent sur le rivage, mes paumes me dissoudre d'alcool et de paysages. Je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique.
D'alcool et de paysage. C'était Team Up sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
La plus ancienne espèce Homo a probablement vécu il y a plus de 2 millions d'années et était de fait contemporaine de certains australopithèques. Mais contrairement aux premiers hominidés, qui présentaient à la fois des traits humains et des traits de singe, les espèces du genre Homo étaient plus distinctement humaines. Leur capacité crânienne n'a cessé d'augmenter, dépassant de loin celle des premiers hominidés. Ils ont développé des utilisations sophistiquées d'outils et sont devenus la première espèce à maîtriser le feu. Leurs adaptations physiques et comportementales, conjointes à des développements technologiques, ont permis à certaines espèces Homo d'être les premières à migrer d'Afrique vers le reste du monde.
Voilà, une petite histoire des origines de l'homme avec une vidéo du National Geographic. C'était en mars 2021 avec nos invités pour nous parler d'Homo sapiens, Valérie Zetoun et Eva David, à l'occasion de la publication de ce grand atlas Homo sapiens dans la collection du Monde aux éditions Glénat. C'est quoi d'ailleurs l'objet de ce grand atlas, Valérie Zetoun? Parce que c'était un travail qu'avaient fait vos confrères italiens, c'est ça au
Absolument.
Départ?
Absolument. Donc c'est... Au départ, c'est une édition italienne qui a été reconfigurée il y a 2 ans.
Ouais.
Et puis là, c'est la reconfiguration de la configuration,
ouais.
Puisque les choses évoluent. Et l'idée, c'est d'essayer de montrer une sorte de vision, en tout cas l'objectif, c'est d'être une vision universaliste de ce qu'est la préhistoire au sens large, et de faire une sorte de bilan des connaissances. Alors évidemment, il n'y a pas tout, puisqu'on ne peut pas tout mettre dans un atlas. Mais la chose, moi, qui m'a semblé importante par rapport à ce qu'on voit généralement dans les reproductions ou les illustrations, c'est, vous savez, tous ces mouvements de population ou ces déplacements avec des flèches,
mm-hmm.
et des flèches qui vont toujours dans un seul sens. Mm-hmm. Et moi, j'ai vraiment tenu à ce que les flèches aillent dans les deux sens, en me disant que, de toute façon, si l'environnement permettait d'aller d'un endroit à un autre, il pouvait aussi permettre de revenir en arrière,
mm-hmm.
et que si on pouvait voir à l'échelle du temps... des déplacements comme ça, c'était pas une réalité qu'il y avait toujours des
allers-retours. Il n'y a pas eu qu'un départ d'Afrique, voilà. Par exemple, pour Homo sapiens, et jamais de retour en arrière, Eva David. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Oui, et c'est pourquoi aussi on peut s'attendre à avoir exactement les mêmes productions industrielles à 500 000 ans d'écart. C'est ce qu'on fait dans notre laboratoire, justement, de démontrer que, en fait, on a des perceptions différentes des outils, même si à la fin, la production peut paraître exactement semblable. La façon dont elle est opérée aussi peut être vu comme semblable, mais en fait, non, ne l'est pas.
Donc, ouais, donc à la fois sur une temporalité qui peut être très très importante, mm-hmm. mais aussi sur des lieux géographiques qui ne sont pas du tout les mêmes.
Pas
et on peut trouver les mêmes outils.
Absolument.
C'est ça que ça veut dire.
Oui.
Hein. Alors justement, sur Homo sapiens, on a cette question pour vous, Valérie Zetoun de Ludovic. Les parents du premier sapiens étaient-ils des sapiens? Si oui, leur enfant n'est pas le premier sapiens. Sinon, qui était-il?
Alors, la réponse...
Ça vous plaît, cette question?
Oui, la réponse, je vais vous répondre un peu à côté, mais ça va répondre quand même.
Ouais.
Vous vous rappelez qu'avant, on cherchait toujours des chaînons manquants.
Ouais.
À partir du moment où vous trouvez un chaînon manquant, bah, vous avez deux autres chaînons manquants de part et d'autre. Bah, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc on n'aura jamais une idée de la réalité physique, et on parle souvent, enfin, davantage de population. On ne parle pas vraiment d'individus, hein. Ça paraît compliqué de trouver les individus. Et d'ailleurs... il y a des méthodes de la systématique qui considèrent que quand on a une espèce, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle une spéciation, c'est-à-dire une modification importante, et qu'on a une autre espèce qui en découle, eh bien, l'espèce mère n'existe pas. Il y a une deuxième espèce fille, au motif que son potentiel génétique n'est plus le même, puisqu'il y a une partie de la lignée qui s'est retrouvée différente, mmh. et ce qui reste est également différent. Donc on n'arrive pas, on a donc une espèce mère et deux espèces filles.
Ça veut dire quoi, Eva David? C'est-à-dire que l'individu zéro, en fait, on ne l'aura jamais pour quelque espèce que ce soit?
Non, c'est une quête sans fin. Mais par contre, ce qu'on peut se demander, c'est ce qui fait la modernité, ou c'est ce qui fait la modernité de Sapiens. C'est, à mon avis, le fait de s'identifier différemment que le milieu, d'être autre chose que simplement partie prenante de la nature ou d'utiliser des choses qu'il trouve dans la nature. C'est vraiment au niveau de son anticipation et de ce qu'il fait de la nature.
On va écouter Jean-Jacques Hublin parce que c'est lui qui, avec son équipe, a mis au jour, en tout cas pour l'instant, le plus ancien Homo sapiens, retrouvé avec un fragment de crâne. Ça s'est passé à Djebel Iroud au Maroc. Crâne daté de 300 000 ans. Ça a reculé de 100 000 ans, justement, la datation de l'émergence d'Homo sapiens.
342,
ouais, et il en parlait au micro, justement, de TV5 Monde. On va le commenter ensemble juste après.
Djebel Iroud, c'est un site qui était connu hein, depuis les années 60. On avait trouvé là des fossiles. On ne savait pas très bien quel était l'âge de ces fossiles. On avait du mal à les intégrer dans l'ensemble des découvertes africaines.
Mmh.
Et donc, dans les années 2004-2005, j'ai développé ce projet avec des collègues marocains. Et donc, nous avons repris des travaux. Et donc, on a daté le site de 300 000 ans. Et donc, cette découverte au Maghreb, et puis d'autres découvertes qui sont faites ailleurs en Afrique, nous montrent aujourd'hui que l'espèce est beaucoup plus ancienne que ce que l'on croyait. Et surtout, avec des innovations techniques, des inventions, mutations qui sont produites dans différentes régions, et puis des mutations dont l'accumulation a donné naissance à un homme comme vous et moi.
Valérie Zitoun, un commentaire. Donc, quand on fait la découverte comme ça d'un crâne qui recule d'autant la datation, en tout cas de l'apparition de notre espèce hein, en particulier, c'est un vrai changement de paradigme. Qu'est-ce qui se passe finalement pour les préhistoriens ?
Alors, en fait, là, c'est raccourci, hein, ce que dit Jean-Jacques. En réalité, les crânes qu'on avait trouvés dans les années 60 étaient bien plus complets. L'opération consistait à retrouver le niveau d'où provenaient ces crânes. Par ailleurs, la datation qui était réalisée, Jean-Jacques en avait fait une en 91 directement sur le crâne, mais on n'avait pas la possibilité d'avoir la dosimétrie pour calibrer l'âge. Et ce qui a pu être fait là, c'est de repérer une couche où il y a du matériel lithique, et c'est cette couche qui a été datée. Ensuite, en ayant la dosimétrie de la couche...
C'est-à-dire qu'il y avait quoi concrètement ? Il y avait des silex, c'est ça,
Il y avait des outils, ouais. Et il y avait à côté donc des fragments humains, et donc on a fait le rapprochement, on a réassigner les anciens fossiles à ces couches-là, ouais. Mais le matériel lithique en réalité. Ouais.
Et alors Eva David, qu'est-ce que ça nous raconte finalement de l'histoire d'Homo sapiens en Afrique ? Parce que cette découverte justement dans cette partie-là de l'Afrique, donc le Maroc en l'occurrence, là aussi ça rebat quand même les cartes sur l'histoire d'Homo sapiens. Hein.
Pour la correspondance entre
le fait qu'on découvre ce crâne-là, alors que précédemment, c'était plutôt en Éthiopie, sur les plus anciens fossiles, c'est-à-dire que finalement, ça nous raconte autre chose de l'existence d'Homo sapiens, Valérie Zitoun, sur le continent africain.
En fait, une fois encore, ça dépend de ce qu'on appelle Homo sapiens. En l'occurrence, les fossiles de Djebel Erhoud, si on regarde le menton, il n'y a pas de menton, comme nous, les hommes modernes. Donc ça dépend de ce qu'on appelle Homo sapiens, une fois encore. Sinon, il y a le crâne de Zoutillé, qui a à peu près 300 000 ans aussi en Israël. Il y a des fossiles en Éthiopie. Alors, selon qu'on les appellera Homo sapiens ou pas, ils seront plus vieux. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais au début. Ça dépend de ce qu'on met comme étiquette sur la boîte et ce qu'on met dans la boîte en réalité.
Mais là aussi, ce qui est intéressant, et peut-être ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a pas non plus un lieu de naissance qui sera un unique lieu de naissance en Afrique, hein, mais qu'il y a eu plusieurs émergences d'Homo sapiens sur le continent africain, Eva David.
Alors ça, je pourrais pas me prononcer là-dessus. En revanche, si on regarde l'Europe uniquement, on a déjà de l'industrie ou de la culture matérielle, des productions, en tout cas du matériel qui est utilisé par les anciens, par les hominidés, déjà à 400 000 en Allemagne notamment. Donc c'est pas surprenant d'avoir témoignage d'une humanité ancienne, même si elle est plurielle, aussi loin que 300-350.
Alors sinon, ce qui se dessine en fait petit à petit avec les nouvelles découvertes, et d'ailleurs il faut dire que la recherche d'Homo sapiens en Afrique, c'est un peu nouveau. On a surtout cherché des australopithèques, des paranthropes, des très vieux, anciens humains, et là depuis quelques années effectivement il y a ce renouveau de recherche sur les Homo sapiens et même sur les modernes. Et ce que nous disent ces données-là, et également les données de la génétique, c'est un petit peu comme si sur le continent on avait différentes populations et qu'au cours du temps, il y aurait une sorte de modernisation, ce qui aurait fait une sorte d'homogénéisation d'une population entière, qu'on peut appeler Homo sapiens ou autrement, de même qu'il y a eu en Europe une néandertalisation avec une population qui, isolée, avec différentes populations différentes, s'est homogénéisée à un moment donné. Donc on a un peu des schémas semblables entre l'Afrique et l'Europe, entre, on va dire, les néandertaliens d'un côté, et ce qui sera plus tard les modernes en Afrique.
Une question de Sylvain qui nous arrive sur franceinter.fr. Yuval Harari insinue dans son livre Homo sapiens, je vous vois lever les yeux au ciel, que notre espèce aurait été l'autrice du premier génocide en éradiquant Néandertal et Erectus. Quel est l'avis de vos experts sur le sujet ? Pourquoi vous levez les yeux au ciel quand j'évoque ce livre ?
Parce qu'il me semble que pour moi c'est un roman que je n'ai pas lu, donc je ne prononcerai pas dessus, mais c'est un roman. Donc... voilà, c'est
alors, sur l'idée quand même, parce qu'elle peut être évoquée, d'un génocide, que Homo sapiens aurait éradiqué Néandertal, est-ce que ça c'est totalement exclu aujourd'hui, ou est-ce qu'on pourrait quand même imaginer, est-ce qu'il y a eu, Eva David, des guerres par exemple, entre les deux espèces ou pas ?
Oui, on a des témoignages qu'il y a eu consommation d'êtres humains, oui, on peut le dire, mais de là à parler de génocide, ça me paraît un peu... un peu prématuré, parce que pour évoquer le génocide, c'est quelque chose qui est délibérément réalisé. Or, c'était peut-être juste la subsistance pour eux.
On verra, on y reviendra avec vous sur les conditions de la disparition de Néandertal.
Mais sinon, juste sur cette question-là, il ne faut pas non plus essentialiser. C'est-à-dire qu'il y a des populations de néandertaliens, il y a des populations de modernes, et il n'y a pas de raison qu'il soit passé la même chose partout. Il y a pu y avoir, pourquoi pas, des conflits locaux. mais on le sait par la génétique, il y a aussi eu des échanges, et pas seulement culturels, y compris géniques. Donc, on ne peut pas généraliser, essentialiser sur deux taxons ce qui s'est passé au cours du temps.
Allez, on y revient avec vous. D'autres questions pour vous de la part des auditeurs sur franceinter.fr. On parle d'Homo sapiens cet après-midi.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille Passauvert avec une rediffusion du 20 janvier dernier avec un sujet en Gironde sur un projet de champ de panneaux solaires géants.
Oui, ce serait la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe si elle voyait le jour fin 2025 au mieux. Et ce n'est pas du tout gagné puisque le projet fait beaucoup de mécontents depuis qu'il a été présenté la semaine dernière. Un exemple parfait en fait de paradoxe. Produire une énergie renouvelable en détruisant la nature, car il faudra raser 1000 hectares de forêt pour construire cette centrale solaire.
Placer ces énormes installations sur la forêt, c'est la pire des solutions. Ça paraît complètement incohérent.
Ah, il est colère ce monsieur qui s'appelle Daniel Delestre, un ingénieur à la retraite, président de la CEPENSO Aquitaine, l'association de protection de la nature. Pour lui, la Gironde s'est transformée en Eldorado des panneaux solaires, il y en a partout.
Il y a déjà deux centrales photovoltaïques sur la commune de Socat de 42 hectares. À côté, à quelques kilomètres, on a encore deux centrales photovoltaïques à Saint-Magne de 40 hectares. À 10 kilomètres, on a la centrale de Cestas, 260 hectares, à Mios, etc. Je pourrais vous citer plein de cas d'un développement un peu, moi je dirais, un peu anarchique de ces centrales photovoltaïques au sol, au détriment de la nature.
Donc c'est des champs de panneaux solaires qu'on voit.
Ah voilà, à perte de vue.
Une cinquantaine d'installations sur 1500 hectares au total, dont deux déjà dans la commune de Socat, 20 km au sud de Bordeaux, où le projet Oriseo veut s'implanter. Un gigawatt de production électrique pour fournir 600 000 foyers, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire, avec en plus de la production d'hydrogène, un centre de données, du stockage de batteries et un petit peu d'agrivoltaïsme, des cultures sous les panneaux solaires. Engie et la société Neoen, spécialisée dans le renouvelable, sont derrière. 1 milliard d'euros d'investissement. Et Mathieu Le Grel est le porte-parole qui ne parle pas d'ailleurs de centrale solaire géante, mais écoutez...
Oriseo est un projet de plateforme énergétique orientée bas carbone.
Voilà, une plateforme énergétique orientée bas carbone et il déroule.
C'est un projet donc ambitieux, innovant, responsable et avec une vraie volonté d'exemplarité.
Alors justement, est-ce que raser une forêt correspond à tout ça ?
Le défrichement est un enjeu sensible qu'on a identifié dès le début, mais le projet représente moins de 0,1% du massif forestier des Landes de Gascogne. Je voudrais juste préciser que la forêt est la plus grande forêt exploitée d'Europe. Elle constitue 1 million d'hectares et c'est essentiellement des parcelles sylvicoles dédiées à la production de pin. C'est de la monoculture de pin et elle est en grande partie à visée économique. Il y est pratiqué des coupes rases régulières pour prélever les troncs.
Et alors, ce n'est pas une raison, répond la vice-présidente écologiste de la région, opposée elle aussi au projet, Françoise Coutan.
Alors ok, c'est peut-être de la culture de pin, mais il n'empêche que c'est une forêt aujourd'hui avec 1000 hectares tout de même, donc une richesse de biodiversité. On peut pas, faut pas dire n'importe quoi non plus, c'est pas de la culture intensive de maïs. Hein.
Le projet Oriseo est un non-sens total selon elle.
J'ai quand même l'impression qu'on a un certain nombre de porteurs de projets qui arrivent sur les territoires qui n'ont aucune approche systémique. C'est-à-dire qu'on produit de l'énergie, elle est renouvelable, c'est formidable. Non, non, on produit de l'énergie, elle est renouvelable, c'est formidable. À la seule et unique condition qu'il n'y ait pas d'impact collatéraux. Et là, c'est pas logique. On ne peut pas détruire 1000 hectares de forêt pour produire de l'énergie.
D'autant qu'un recensement de terres déjà artificialisées, donc des parkings ou des toits d'entrepôt par exemple, a été fait. Il y en aurait suffisamment pour atteindre les objectifs de hausse des énergies renouvelables d'ici 2030. Le porte-parole d'Oriseo justifie le choix de cette énorme parcelle de 1000 hectares comme ça.
La présence d'un poste de transformation RTE sur la commune de Socat qui offre une capacité d'injection qui est rare en Nouvelle-Aquitaine, voire rare en France.
Voilà, donc un poste RTE juste à côté, plus donc la parcelle d'un seul tenant, bien sûr, le tout en assurant que les sites artificiels restent une priorité et en promettant des compensations.
Les porteurs de projets ont le souhait de replanter physiquement jusqu'à 2000 hectares si l'autorisation de défrichement était portée sur 1000 hectares.
Voilà, deux pins plantés pour un pin rasé, par ici la promo. Là encore, les opposants n'y voient pas une solution utile ou acceptable. Quant à la promesse de consacrer une partie du terrain à de l'agrovoltaïsme, Daniel Delestre, le défenseur de l'environnement, est sceptique et c'est peu de le dire.
Sous les panneaux photovoltaïques de la centrale de Cestas de 300 hectares, elle n'y a pas plus de biodiversité que dans le parking d'Auchan ou de Carrefour. C'est un sol qui est, il n'y a plus rien du tout.
des inconnus soulevés par le maire de Socat, qui a donné pourtant son accord de principe et que j'ai pas réussi à joindre. Des inconnus existent aussi sur les risques d'incendie, nombreux là-bas, vous le savez, et d'électrocution des pompiers ou sur des potentielles inondations, puisqu'il y aura plus de pain pour retenir l'eau. Un débat public est prévu dans les mois qui viennent avec un enjeu central, développer les énergies renouvelables, mais de façon à ce que les citoyens n'en soient pas dégoûtés, comme c'est le cas aussi avec les éoliennes, par exemple. Ça s'appelle ménager la chèvre et le chou, et c'est pas toujours facile.
Et c'était Camille Passauvert avec la rediffusion d'une chronique donc de janvier dernier. La consultation publique dont il est question justement dans ce sujet se termine justement à la fin de cette semaine. Et vous pouvez y accéder en ligne avant la rédaction d'un rapport final par la Commission nationale du débat public. Homo sapiens, c'est le dossier de l'émission. On retrouve nos invités dans un instant et vos questions nombreuses qui arrivent sur le site de la Terre au Carré.
Got the whole world staring at you. You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. Seeking and you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
C'était la voix de Celle Lassou et Thierry Dupin pour la programmation musicale de cette Terre au Carré version 2022.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il était une fois, il y a 300 000 ans avant notre ère, Homo sapiens. Mais qu'est-ce que le sapiens a de si particulier ? Le feu. Il apprend à le maîtriser et se prépare de bons steaks de mammouth. Une nourriture qui lui permet de muscler son cerveau, qui grossit. Si bien qu'il en arrive à acquérir un langage articulé, faculté unique dans l'univers du vivant. Il devient alors bientôt artiste, musicien, chef de clan, fashionista et même agriculteur sédentaire. Après ça, plus rien ne le freine, cet homo savant. Du silex. Au web, en passant par la lune, le sapiens sapiens n'arrête plus le progrès. Et alors, c'est quoi le prochain stade de l'évolution ?
Voilà, sur le site de la RTS en juin 2017, une brève histoire de l'évolution pour parler d'Homo sapiens avec nos invités Valérie Zetoun et Eva David. Ça vous inspire quoi le steak de mammouth, Valérie Zetoun ?
Alors, j'en ai jamais mangé, donc je pourrais pas dire d'un point de vue gastronomique. Par contre, c'est, tout ça m'a l'air très déterministe, hein, d'enchaîner les événements comme ça fait des raccourcis. Alors je comprends qu'on ait pu avoir ce discours au début, quand il a fallu convaincre qu'il y ait une évolution, y compris pour l'homme, mais bon, c'est un peu obsolète toute cette approche-là.
Et alors justement, le fait de parler du feu, on ne l'attribue pas à Homo sapiens, pour le coup, c'est pas une invention d'Homo sapiens, hein.
Non, enfin, en tout cas, on ne sait pas trop. Hein. On a déjà du mal à le caler chronologiquement. On entend des dates variées, 700 000, 400 000, 600 000.
Ouais. Parfois un million d'années.
Parfois, alors après, est-ce que c'est du feu vraiment anthropisé ou du feu naturel, on ne sait pas trop. Et en fonction de l'âge et des humanités qui existent à ces périodes, on pourra leur attribuer la maîtrise. Mais bon, c'est une question qui n'est pas du tout...
Eva David, il y a une question de Gilles d'ailleurs qui nous dit ceci. Comment explique-t-on que les plus grandes inventions de l'humanité aient eu lieu ces 200 dernières années
200 000 alors que,
200 dernières années, non, oh dit-il, alors que pendant des millénaires, l'humanité a avancé très lentement. Pourquoi cette soudaine poussée d'ingéniosité? Alors peut-être fait-il référence à l'ère industrielle. En tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre là-dessus?
En fait, je pense que c'est juste une question de perception temporelle, de sa temporalité à ce monsieur, c'est-à-dire qu'il prend conscience de l'environnement dans lequel il vit, avec l'apport de ce qu'il connaît, de la connaissance de ces 200 dernières années.
Ouais.
Mais on imaginerait avoir une mémoire qui remonterait à 200 000 ans. Mmh. En fait, tout ça ne correspondrait à ce laps de temps de 200 ans, ça serait pareil. Mmh.
Valérie Zetoun, pour poursuivre.
Pour poursuivre, moi je
parce
dirais.
Parce qu'on parlait du feu, par exemple, c'est pas rien quand même comme invention.
Oui, oui, mais on pourrait parler de l'écriture. Hein. Et l'écriture, c'est plus que 200 ans quand même.
Ouais.
Bon, c'est sûr, il y a des choses très, très, très récentes qui sont un énorme progrès. Je pense en particulier à la contraception. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisqu'on peut agir sur notre propre espèce. Ça, c'est un fait important qu'on oublie souvent d'ailleurs. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a tout ce qui est, par exemple, le fait d'enterrer ses morts, ça on le connaît chez les Néandertaliens il y a beaucoup plus longtemps. La parole qui date de on ne sait pas quand non plus, c'est peut-être, enfin, me semble-t-il, c'est beaucoup plus important qu'il y ait 200 ans avec l'ère industrielle et dont on constate les dégâts aujourd'hui d'ailleurs.
Ouais. Eva, David, sur quoi vous travaillez vous exactement? On parlait des ossements, on parlait des pierres tout à l'heure, vous étudiez aussi les parures, tout ça, ça vous donne des indications précisément sur les humanités?
Sur les humanités, sur les technologies et surtout pour étudier les interactions entre les groupes, en fait. C'est par rapport à votre question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut relier des événements en particulier à des individus, en tout cas des individualités? Ça, c'est aussi intéressant. On peut, comme ça, repérer les experts, des non-experts, mais on peut aussi comprendre comment l'évolution technique et la technologie évoluent. C'est-à-dire, c'est pas uniquement quelque chose de graduel qui va dans le temps, voilà, entre moins de 200 000, mettons, et aujourd'hui, on est dans un déterminisme technique, pas du tout. On se rend compte que, effectivement, certaines interactions peuvent donner naissance à des innovations, à des inventions qui sont pas pérennisées, qui peuvent éventuellement se reproduire de l'effet des mêmes interactions en vérité.
Est-ce qu'il y a des techniques qu'on peut vraiment sans problème attribuer pour le coup à Homo sapiens? Et c'est aussi la suite de ma question, qu'est-ce qui fait la nature de notre espèce Homo sapiens sapiens? Alors d'abord sur la question des technologies, quelles sont celles qu'on peut vraiment attribuer à notre espèce?
C'est une grande anticipation dans la production, c'est-à-dire que là, ça pour les spécialistes, ça renvoie au phénomène Levallois, par exemple.
Qu'est-ce que c'est ce phénomène Levallois?
Ce sont des points de bord qui sont produits à partir de galets ou de nodules rocheux, on va dire, et qui sont produits de façon à obtenir toujours un même type de pointe, quelle que soit en fait l'étape dans laquelle on va être sur la production. Et ça va être aussi répliqué, mais aussi imité. On sait maintenant, par exemple en Inde, qu'on a des pointes levallois qui sont pas du tout levallois. Ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'homogénéisation des espèces. C'est pas tout à fait ça qu'on voit dans les industries, dans les cultures matérielles. On voit qu'il y a des formes qui sont créées, qui sont presque comme Homo erectus, qui vont être là, présentes pendant des années, des milliers d'années, le biface, la pointe levallois. Mais il y en a. C'est pas, il y en a qui vont être produites, mais qui ne déterminent pas le Levallois, qui ne montrent pas la prédétermination, et donc qu'on peut considérer, pourquoi pas, comme étant des copies. C'est-à-dire que là, on pourrait vraiment identifier, et on est au début de caractériser tous ces phénomènes, en vérité, et c'est complexe parce que ça renvoie à la lecture de l'objet. Et vous savez, quand vous êtes fasciné par un objet, vous voyez un objet, bon, il est triangulaire, il est carré, vous êtes fasciné par sa forme, vous ne voyez plus en fait son contenu. Et ça renvoie aussi à la mémoire. Donc comment regarder l'objet? Et c'est une, il faut en fait repartir sur reformuler sa vision des choses, sa façon de voir les choses pour comprendre les objets si anciens.
Mais ça vous aide quand même à dresser un portrait robot, entre guillemets, évidemment, d'Homo sapiens, précisément, l'étude Homo de sapiens, ses techniques, de ses objets, de ses parures.
Alors c'est, ça renverra à sa modernité, c'est le fait de se parer, effectivement.
Ça, c'est le propre d'Homo sapiens, par exemple?
C'est pas le propre, les animaux se parent aussi, mais c'est presque anecdotique quand ils le font, ou c'est en réaction à d'autres aussi, mais c'est le fait de délibérément choisir des produits pour se parer et que ça devienne quelque chose de systématique ou de quotidien.
Valérie Zetoun, pour poursuivre sur ce qui fait quand même la nature de cet Homo sapiens, et qu'est-ce qui explique aussi qu'aujourd'hui nous soyons la seule espèce existante sur la planète? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre anatomie, dans notre cerveau qui pourrait expliquer ça ou pas?
Alors j'aurais dit l'irrationalité, mais c'est pas forcément le cas, puisque c'est le cas aussi des Néandertaliens, peut-être avec les inhumations, de même que le Valois, les Néandertaliens aussi avaient cette vision d'anticipation, donc c'est un peu compliqué. Moi je dirais que ce qui nous caractérise, nous humains en tout cas, ceux qui restent par rapport au reste du monde animal, c'est que on a une vraie peur du hasard en réalité, puisqu'on a inventé des religions pour se réconforter, ou de la science, et même en science où finalement si on a une approche non déterministe, eh ben on devra accepter qu'il y ait des choses qui sont aléatoires. Mais même ça, on a du mal. Donc j'ai l'impression que c'est à la fois une caractéristique et comment dire, une limite de ce que nous sommes, nous, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais sinon, une caractéristique physique, là aussi, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Alors moi, j'aurais tendance à dire que l'homme moderne, Homo sapiens sapiens, il a ces deux structures au-dessus de l'œil, hein, arc ciliaire, arc supraciliaire, qui sont distinctes, alors que ce n'est pas le cas dans les autres humanités. Il y a ce menton en avant qu'on ne voit pas ailleurs. Mais sinon, il y a la forme aussi de la face qui est un peu particulière. On arrivera toujours à trouver des choses intermédiaires, parce qu'il y a eu des choses intermédiaires. La génétique nous parle d'hybridation relativement récente. Donc on peut retrouver des choses qu'on appellera significatives de l'homme moderne, mais qui finalement ne le sont pas tellement, puisque si on les retrouve ailleurs, finalement ce ne sont plus propres de l'homme moderne.
À quel moment il se retrouve vraiment seul sur la planète Homo sapiens?
Alors si on regarde tous les, on va dire les durées d'existence des autres humanités, que ça soit l'homme de Flores, l'homme de la Naledie, l'homme de Luzon ou les Néandertaliens, les Denisoviens, on pourrait penser que c'est à peu près, en tout cas sur le modèle qui est le plus connu, c'est celui de l'Europe en réalité, mais bon, il y a des choses qui se passent en Asie du Sud-Est aussi. Ça pourrait être autour de 30 000 où on a l'impression que ce sont les hommes modernes qui remplacent ou qui sont les plus présents que les autres. Alors après, on va se chicaner à 1000 ou 2000 ans entre qui est le dernier en Espagne. Est-ce que c'est Zafaraya, un Néandertalien?
En tout cas, aux alentours de 30 000 ans,
de ce qu'on peut dire.
On peut dire que l'Homo sapiens...
En gros, depuis, on va dire, 30 000 ans, on peut dire qu'on est les seuls, quoi. Ouais. Les autres ne sont plus là, en tout cas.
Et pour quelle raison? Alors, encore une fois, pardon de vous reposer la question, mais pour quelle raison est-ce que nous sommes aujourd'hui les seuls? Est-ce qu'on avait un avantage, on avait des qualités que les autres espèces n'avaient pas pour pouvoir justement
faire la place pour nous seuls? Je mettrais ça sur le compte du hasard. Ouais. Alors, évidemment, on peut toujours trouver des explications. Hein,
mais... Est-ce qu'il y a des événements environnementaux qui pourraient l'expliquer?
Moi je dirais non. En tout cas, les Néandertaliens ont affronté des changements environnementaux bien plus drastiques que ceux qu'on a vécu nous. Ils ont supporté ça pendant au moins 200 000 ans.
Ouais.
Bon, il n'y a pas de raison que ils disparaissent. On peut aussi invoquer l'hypothèse virale. On aurait pu être plus résistant que d'autres populations, mais bon, là il n'y a aucune preuve. Ce ne sont que des idées en l'air. Et puis on a même considéré que le mélange avec certains Néandertaliens ou des Denisoviens nous a permis d'avoir des facultés pour l'altitude ou pour la résistance au froid ou des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, je pense pas qu'on soit en capacité de répondre avec des preuves avérées. On a des hypothèses, on peut les tester, mais voilà, ça reste... La question reste ouverte.
Si, comme notre auditeur Xavier, vous avez retrouvé un crâne dans votre jardin, eh bien restez avec nous. On vous dira dans un instant comment le dater et qui contacter, évidemment, pour en savoir plus.
Bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein? Bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein? Bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Ma camomille, ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Oh, la la la.
Et c'était Nino Ferrer.
France Inter. La Terre au carré.
Nos invités Valérie Zetoun avec cet atlas, ce grand atlas Homo sapiens, publié donc à la fin du mois de novembre aux éditions Glénat avec nos confrères du Monde, et puis l'archéologue Eva David. Alors justement, cette question de Xavier, j'ai découvert, nous dit-il, un crâne à côté d'une céramique en creusant, alors dans une grotte sur ma propriété en Dordogne. Je voulais savoir comment le dater, ce crâne, et qui contacter pour en savoir plus. Eva David.
C'est une bonne question, mais avant de le dater, il faut tout de suite aller voir le conservateur, surtout en Dordogne, où on a énormément de sites. Maintenant, à côté de la céramique, ça fait penser plutôt à du moderne. Alors, je pense que le conservateur, si il sera d'accord de faire une petite enquête, une expertise sur son crâne, et de savoir quels sont les événements qui ont contribué à faire que le crâne qui est observé aujourd'hui correspond bien au crâne qui a été déposé, déjà, parce que si c'est quelqu'un qui a assassiné je sais pas qui et qui a déposé dans le jardin, ou si c'est quelqu'un qui est mort il y a 200 000 ans, l'aspect sera un peu différent.
Bon, en tout cas, Dordogne, il est plutôt entre de bonnes mains, hein, pour avoir justement des informations.
Absolument.
Pour en savoir plus sur ce crâne donc découvert tout près de chez lui. Valérie Zetoun, il y a une autre question, celle de Julie, qui demande si Homo sapiens sapiens c'est l'aboutissement d'une lignée, ou est-ce qu'il serait possible de voir apparaître un homme, un homo nouveau qui viendrait remettre de l'ordre dans tout le bordel qu'ont semé les sapiens sapiens, nous dit Julie. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer ça ou pas?
Alors on peut imaginer, mais
est les derniers là, mais est-ce qu'il y en aura d'autres après?
Alors,
et des nouveaux?
Le constat, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on est les derniers. Après, comment on va évoluer, ça, on ne sait pas. Ça va dépendre de nos interactions avec l'environnement, y compris celui qu'on a généré nous-mêmes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de nouvelle spéciation à un moment donné, ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas répondre à cette question. Mais ce qu'on voit avec la préhistoire, au sens large, c'est qu'on a un buissonnement des espèces. Alors, c'est vrai chez nous, au sein du genre homo, mais c'est vrai dans d'autres taxons. Et puis, il y a aussi des lignées qui ont complètement disparu. Donc... il peut y avoir une suite, entre guillemets, comme il peut ne pas y en avoir. En tout cas, peut ne pas être...
Donc, nous ne sommes peut-être pas forcément les derniers sur Terre, en tout cas.
Pas forcément, mais voilà. Enfin, en tout cas,
l'avenir ne le dira. Mais malheureusement, on sera probablement pas là pour le savoir et pour le voir.
On va voir l'émission de 2022. Ouais.
Est-ce que justement, l'Homo sapiens qui vivait il y a 300 000 ans en Afrique et celui que nous représentons aujourd'hui ont vraiment beaucoup de choses en commun? Ou est-ce que c'est vraiment deux mondes qu'il faut imaginer extrêmement différents? Tant, évidemment, sur le niveau culturel, ben ça oui, mais sur le niveau anatomique, morphologique. Alors,
d'un point de vue anatomique, ce dont parlait Jean-Jacques tout à l'heure, donc, ce que je disais, ils n'ont pas de menton, par exemple. Donc, ouais. On ne pourrait pas les mettre dans la case moderne, au sens strict, en tout cas. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, alors pas que sur l'Afrique du Nord, hein, les données génétiques nous montrent ça, notamment avec la plotide L3, où on voit qu'il y a il y a des communautés, il y a des populations qui sont porteurs de certains signes qui sont marqués dans le génome, et on a différentes populations qui sont parties d'un point de vue géographique, au nord, au sud, à l'est, etc. Mmh. Et on peut raccrocher ces données de la génétique à des populations qui devaient être pas tout à fait pareilles morphologiquement aussi. Donc voilà, c'est, quand je parle d'homogénéisation tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui apparaissent, et à un moment, quand la zone elle est circonscrite, les populations se mélangent et puis ça s'homogénise un temps, puis après, de nouveau, ça redevient différent, voilà. Donc, en l'occurrence, l'essentiel est là, hein, les configurations anatomiques sont là pour l'essentiel, à part, en l'occurrence, le menton pour ces fossiles marocains. Mais,
ouais, et Eva David, voilà, du côté des techniques, évidemment, on est sur des univers quasiment parallèles, là, non ? Entre des Homo sapiens très très anciens et aujourd'hui.
Moi, je dirais, il y a aussi la portée symbolique de ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'on peut pas le démontrer. C'est difficilement démontrable pour moins 300 000 ans, si ce n'est à travers les sépultures ou des choses comme ça. Mais c'est extrêmement rare, voire inexistant. Donc, même si pour moi la symbolique, elle est inhérente à la parure, même de trouver de la parure, c'est même pas dit qu'on a pensé se différencier de la nature et par là être moderne, déjà.
Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, le grand atlas Homo sapiens est donc paru aux éditions Glénat, et c'est nos confrères du Monde qui ont publié donc ce travail que vous avez revu, Valérie Zetoun, avec vos confrères italiens, sur une préface d'Yves Coppens. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Au micro de la Terre au Carré.